la première.
Oui.
Oui, oui.
Par où dire ?
Pascal Tison.
Dis-moi.
Par où dire ?
Par où dire ?
Quoi, c'est important, l'art ? Pourquoi c'est important de le faire ?
L'art,
façon de voir,
c'est le plus court chemin de l'homme à l'homme.
Façon de voir.
Moi, je montrerai tout.
Façon de voir.
Vert, rouge, jaune, violet.
Façon de voir.
Une œuvre d'art, et elle a un auteur. Et pourtant, bah, quand elle est parfaite, il y a quelque chose d'essentiellement anonyme.
Façon de voir.
Façon de voir.
Non, c'est pas Picasso, c'est moi.
Façon de voir.
Façon de voir.
C'est quelque chose qui fait du bien à la tête par les yeux.
Façon de voir.
Façon de voir.
Façon de voir.
Bonjour Philippe. Désolée. Hier soir, je revérifie l'heure du rendez-vous. C'est bien noté à 10h. Mais dans mon cerveau, ça devient 10h30. Je me suis dit, quelle bonne raison je pourrais donner à ça. Puis je me suis dit, en fait, il n'y a rien de tel que la vérité, d'autant que c'est un peu le propos de cette exposition malgré tout.
Ouais, tout à fait.
Donc je me débarrasse et on y va.
Jour en retard, coucou, t'es la tente.
C'est en retard que je pousse aujourd'hui dans le cadre du Photo Brussels Festival les portes de la galerie Contre-type, un centre d'art dédié à la photographie contemporaine et à l'image numérique où je découvre l'exposition Earth, Not a Globe.
Earth, not a globe.
The Earth is flat.
La Terre n'est pas ronde.
Like this stage. It's not a globe.
La Terre n'est pas ronde.
It's not a ball. I don't care what they told you. And I don't care who said it. I'm only here with thus saith the Lord.
À travers cette exposition, le photographe Philippe Braquenier nous immerge dans l'univers des théories et argumentations platistes. Ces images font écho à des discours bien réels, que l'on déniche sans peine sur Internet, comme celui de ce pasteur, le pasteur Omar, prêchant en 2018 dans une église chrétienne de Philadelphie, cette vision radicale du monde.
Is there a corner on this ball? How does a spear have a corner? It doesn't, though.
Face aux photographies que l'on découvre ici, un malaise s'installe. Ce ne sont pas seulement des croyances marginales qui sont exposées, mais une manière de fabriquer du sens, de tordre le réel, de façon à substituer la conviction intime à toute forme de preuve scientifiquement dûment établie. Les partisans de ces théories cherchent-ils la vérité ou à démontrer leurs croyances?
Where's the foundation of this ball? Does a spear have a foundation?
Les images que je découvre ici interrogent notre rapport à la vérité, à l'autorité du savoir, à la fragilité de nos certitudes à l'ère du numérique.
Philippe, tu es né en 1985, tu es diplômé en photographie à l'Elbe. Tu as travaillé dans la publicité jusqu'en 2016. Depuis, tu as exposé à Fondation Aperture à New York, au pavillon belge de la Biennale de Venise en 2018 et au Festival de la photo JMI-X Arles, entre autres institutions et galeries. Et ton travail a été publié à l'international. Tu as aussi été finaliste du prix Louis Ruderer Découverte en 2020. Donc voilà, ça c'est quelques grandes lignes. Mais ici, on va en profiter pour rentrer plutôt dans la partie intime de tout ce parcours. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'emprunter les sentiers de l'art, et plus précisément ceux de la photographie artistique ?
Ah, je pense que ça a toujours un peu été là.
Déjà aux études, je voulais partir vers une école artistique, parce que la ELB, c'est une école technique. Je suis diplômé en technicien de l'image, en fait. Mais j'ai eu une opportunité professionnelle, et quand on est jeune, dans un métier qui est aussi instable que la photographie, j'ai pris le boulot et je n'ai pas continué mes études, vers une photographie plasticienne. Et voilà, à un moment donné, après 9 ans en tant que photographe dans un studio publicitaire, j'ai eu l'opportunité de changer de voie, de parcours.
Tu es né à Mons ?
C'est bien ça, je suis né à Mons. En fait, j'ai commencé à acheter des appareils photo jetables quand j'étais en réto pour documenter mes amis, les soirées qu'on faisait à un moment donné, les voyages, parce qu'on était partis en Slovaquie avec l'école. Et donc, j'avais commencé à acheter des appareils jetables pour photographier ça. Et c'est quelque chose qui m'a plu. Avant de me lancer dans la photographie, j'ai fait un an d'architecture, légèrement poussé par mes parents. Et puis après, j'ai quand même réussi à les convaincre que c'était ma voie, en fait, je pense, d'aller vers l'image.
Parce que tes parents étaient eux-mêmes des architectes ?
Non, pas du tout. Non. Mon père est médecin, était médecin, et ma mère était professeure de langue.
D'accord. Donc tu viens pas forcément, a priori, d'un milieu artistique, en fait ?
Non, il y a aucun dans ma famille, je suis l'OVNI.
Tu soulignes que quand même tu as travaillé 9 ans à travailler la photographie dans la publicité, ça c'est quand même intéressant par rapport à la thématique de cette exposition qui nous interroge par rapport à cette idée du vrai et forcément la publicité...
C'est l'empire du faux, la publicité.
C'est pour ça que tu as fui ce secteur ? Est-ce que tu la fuis d'ailleurs ? Je ne sais pas, peut-être pas.
J'ai parfois des opportunités de photographie de commande que je fais avec plaisir, mais c'est clairement pas le milieu que j'affectionne le plus.
Alors, ça serait intéressant, dans ce rapport au vrai et au faux, comment est-ce qu'on pense l'image, la photographie en publicité ?
Je crois que ça a fortement changé entre maintenant et il y a presque 20 ans quand j'ai commencé la photographie publicitaire. Avant, il y avait l'idée de mettre un concept en image et de créer vraiment une image de toute pièce et de la rendre crédible. Et c'était un vrai travail technique, créatif. Et je pense que ça n'existe absolument plus. Mm-hmm. Parce que le monde publicitaire est maintenant uniquement sur la présentation d'un produit, en fait, presque. Surtout dans l'image fixe. Dans l'image vidéo, là, on parle plus d'émotion, ou en tout cas de pseudo-émotion, je pense. Et voilà, donc maintenant, il n'y a plus aucune créativité dans la publicité.
Alors, on va revenir au thème de cette émission, la découverte de cette exposition ensemble, Earth's Not a Globe, donc la Terre n'est pas un globe. Cette série photographique s'inscrit, Philippe, dans un fil rouge qui se tisse en filigrane aussi au travers des séries photographiques que tu déploies au fil du temps. Ce fil rouge qui est peut-être celui du savoir, de la façon dont on cherche à le collecter, à l'utiliser, le partager, le stocker, peut-être ici même le créer. Est-ce que tu me retracerais comment cette série photographique s'inscrit dans ce parcours et dans ces réflexions de photographe que tu mènes autour de la question du savoir ?
Ce projet a justement débuté pendant ma période de documentation sur le documentaire précédent, qui était vraiment spécifiquement sur comment pérenniser le savoir sur le long terme. Du coup, j'allais souvent sur des forums de vulgarisation scientifique. Mmh. Sur cela, à un moment donné, je suis tombé de plus en plus souvent sur des articles ou des discussions sur les platistes. Souvent, ils étaient moqués, parce que fatalement, c'était quasiment que des scientifiques qui discutaient. Et c'est vrai que je m'étais directement questionné sur comment, à notre époque, on peut encore remettre en cause la forme de la Terre.
C'est vrai que quand on découvre un peu la première fois vraiment les argumentaires platistes, soit on a un peu une forme de sentiment de sidération, soit d'amusement.
Mmh. Oui, complètement. Ouais. Souvent, on se dit que c'est vraiment débile. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça.
Tu disais, cette série, elle est née quand je travaillais déjà à l'époque sur un précédent projet. Ce précédent projet s'appelle Palimpseste. Il y a d'ailleurs ici à contre-type l'ouvrage qui synthétise tout ce projet. Est-ce que tu peux nous expliquer dans les grandes lignes en quoi consistait ce premier livre photographique Palimpseste ?
Palimpseste, je suis tombé par hasard sur un article d'un chercheur au CNRS en France qui mettait en garde contre l'obsolescence des moyens de sauvegarde digitaux, qui expliquait que la durée de vie des CD, DVD, disques durs, etc., avait en fait une très courte durée de vie, comparée même au vinyle, à la bande magnétique, etc. et que chaque nouveau support était en fait à chaque fois moins performant sur sa longévité. Plus le fait que tous les formats digitaux deviennent aussi parfois illisibles de par leur format, de par tous les changements de logiciels.
Qui évoluent à une rapidité effarouchante.
Exactement.
Ouais.
Et donc c'est à partir de cet article que je me suis dit que c'était un sujet intéressant. Et surtout que je me suis dit, là, vraiment, comment mettre en image la connaissance qui est par nature éthérée. Et du coup, je me suis lancé dans ce projet-là pour essayer de documenter l'accumulation de connaissances. Le projet, il a évolué pas comme je l'imaginais à la base. Au tout début, j'imaginais vraiment une photographie très objective, un style comme la nouvelle objectivité à la Candida Hofer, donc un photographe allemand qui photographie des lieux d'une manière très frontale, symétrique, etc. Je m'étais dit que, par exemple, les lieux comme les bibliothèques ou n'importe quel endroit qui stocke énormément, ils sont obligés de faire des rayonnages. Et donc ces rayonnages ont quelque chose de très graphique, etc. Et au tout début, je pensais faire une série un peu comme ça. Finalement, c'est devenu une seule œuvre que j'ai appelée Topographie de la connaissance, où en fait c'est plein de photos qui font une grille et qui remontent tous ces couloirs comme ça. Mais finalement, en visitant des lieux dédiés au savoir numérique, d'autres au savoir physique.
Comme le CERN.
Exactement, comme le CERN. Mais ce qui m'a intéressé, c'est effectivement, à chaque fois, il y a une histoire très intéressante dans ces lieux. Par exemple, le CERN a un énorme data center, fatalement, et ils ont aussi, dans ce data center, une partie qui sauvegarde sur des bandes magnétiques, qui ont une large durée de vie. Ils ont, je ne sais plus combien de bandes magnétiques, et en fait, ils les réenregistrent sur des nouvelles bandes tous les jours, sur toute l'année, et en fait, quand ils arrivent au cycle d'avoir réenregistré toutes les bandes magnétiques, on arrive à un an et ils doivent recommencer. Et donc tous les ans, ils réinscrivent toutes ces données pour être sûr de ne pas perdre d'informations. Et donc, chaque lieu, j'ai collecté à chaque fois des histoires qui étaient vraiment particulières, et c'était ma nouvelle méthode de recherche aussi. Par exemple, la bibliothèque à Stockholm, les endroits où on stocke les livres, par exemple, ils sont pollués au radon, donc c'est un gaz radioactif qui est émis par la roche, parce que Stockholm c'est construit sur de la roche, c'est plein de petites îles rocheuses comme ça, et donc c'est creusé dans la roche, et donc il y a ces émanations de radon. C'est la même chose d'ailleurs dans la grotte Chauvet, par exemple, en France. C'est une grotte avec des dessins paléolithiques,
ouais.
Donc c'est comme Lascaux. Mais Chauvet, les dessins sont encore plus vieux. Et donc c'est des endroits où on ne peut pas trop aller parce que c'est pas bon pour la santé, quoi. Donc j'ai d'ailleurs dû signer une décharge pour la bibliothèque de Stockholm pour dire si j'ai un cancer des poumons, je peux pas les attaquer. Je suis d'ailleurs resté que 2 heures dans les magasins, j'ai pas pris trop de risques. Mais une des images que j'ai retenues de cet endroit, c'est des ventilateurs, des petits ventilateurs de maison, vraiment tout petits, qui étaient posés sur une table, qui étaient là pour juste renouveler l'air, mais d'une manière vraiment sans budget.
Qui pose la question des moyens qu'on investit pour préserver ce savoir sous la forme de livres, en fait.
Oui, tout à fait. Enfin voilà, donc du coup j'ai fait ça pendant 6 ans, je crois, ce projet.
C'est super intéressant. On découvre notamment dans ce projet qu'il y a une bibliothèque bunkerisée qui se trouve quelque part en Espagne.
Oui, dans la Sierra Nevada espagnole, il y a un artiste belge qui a construit cette bibliothèque sous la terre, qui est une sorte de bibliothèque survivaliste.
Ouais.
Et donc en gros, il y stocke toujours au présent des ouvrages qui sont nécessaires à reconstruire une civilisation. Donc pour l'agriculture, enfin, tout ça. Et il a choisi cet endroit-là parce qu'il n'y a pas de faille sismique, donc il ne peut pas y avoir de tremblement de terre. S'il y a des problèmes avec des centrales nucléaires en France ou aux alentours, les vents dominants n'iront jamais dans cette zone-là. Enfin, tout a été vraiment pensé. Ce sont des architectes qui ont construit des aéroports, qui ont construit ce dôme souterrain. Donc vraiment, tout a été pensé pour que cette bibliothèque dure des millénaires.
Palimpseste. Ce projet, tu l'as mené pendant 5-6 ans. C'est donc au travers de ce projet que petit à petit, dans toutes ces recherches que tu menais autour de ces lieux où se stockent le savoir, que tu es tombé sur des sites où on parlait de ces théories platistes.
Exactement.
Earth's Not a Globe, le titre de cette exposition, c'est aussi le titre d'un ouvrage fondateur de la pensée platiste.
Oui, tout à fait. Écrit par Samuel Burley Rowbotham à la fin du 19e siècle. Ça a été clairement la première source d'inspiration aussi, de par la liste d'expériences qu'il réalise et qui sont remises au goût du jour par une sorte de communauté qui a suivi son œuvre.
Dans ce livre, ce monsieur, c'est quelqu'un qui dit « Pour accéder à la vérité, il faut faire des observations immédiates et uniques. La science doit se fonder sur une évidence sensible et accessible à tous. » Et c'est ce qu'on va voir au travers de cette exposition. Je me demandais, cette communauté de personnes qui croient en cette idée que la Terre est plate, est-ce qu'elle est grande? Je pense qu'il existe quand même des statistiques là-dessus aujourd'hui.
Ouais, bah en fait, c'est quand même assez difficile à dire parce que je crois qu'il y a eu un pic de popularité vers 2018, quelque chose comme ça. Il y a quelques grands représentants de la pensée platiste qui ont changé d'avis maintenant, tout récemment, cet été.
Dont on peut voir d'ailleurs des vidéos sur TikTok. Il y en a un, je crois, qui est d'ailleurs parti en Antarctique et qui explique sur une vidéo TikTok qu'effectivement, ça arrive parfois de se tromper.
Oui, tout à fait, et qui est maintenant devenu un debunker, donc quelqu'un qui veut vraiment mettre en garde sur la pensée conspirationniste et sur le fait qu'on peut se fourvoyer à un moment donné dans sa vie.
So obviously you all know Jaron Campanella of Jaronism, one of the most popular Flat Earth YouTube channels.
All right, guys, sometimes you are wrong in life. And I thought that there was no 24-hour sun. In fact, I was pretty sure of it. But I respect Will Duffy for being a stand-up guy, at least in the way that he kept saying it was true. I kept saying it wasn't. He said, you want to go, I'll take you, and brought me here. And it's a fact. The sun does circle you in the south. So what does that mean? You guys are going to have to figure that out yourself. Don't listen to my beliefs or my opinion. It shouldn't matter to you. But at least you should be able to accept that the sun does exactly what these guys said as far as circles the southern continent. So that's about it. I realize that I'll be called a shill for just saying that. And you know what? If you're a shill for being honest, so be it. I honestly believe there was no 24-hour sun. I honestly now believe there is. That's it. If you want to call me a shill, so be it. I'll live to see another day, and at least I know that I got to see it. And I just want to say thanks to Will.
Le nombre de platistes, ouais, c'est assez difficile, je pense, de mettre un chiffre, parce que c'est un mouvement qui est assez individualiste. Donc à un moment donné, il y avait quand même des rassemblements, surtout d'ailleurs en 2018-2019, où là, on aurait pu facilement peut-être dire... Ah non, ce qui est sûr, c'est qu'il y a pas mal de platistes sur les réseaux sociaux qui ont des milliers de personnes qui les suivent. Il y a eu un sondage, il n'y a pas très longtemps, en France, je dirais il y a 3 ans, qui disait qu'une personne sur 10 était platiste.
C'est ce sondage de l'IFOP, à mon avis, auquel tu fais référence, qui date de 2023 et qui dit qu'en France, 9 à 10% de la population croit à cette idée de la Terre plate et 16% chez les 18-24 ans. Aux États-Unis, on est plutôt sur 16% de la population qui croit à cette idée et 34% chez les jeunes de 18-24 ans.
Oui, oui, ce sont des chiffres qui sont complètement dingues. Oui. Mais par contre, j'étais tombé sur une analyse de ce sondage qui, en fait, la question était beaucoup trop ouverte. Donc c'était la question, si je me souviens bien, c'était « Est-ce que vous êtes certain que la Terre est sphérique ?» ou quelque chose comme ça. Et donc là, c'est juste, on questionne l'idée du doute et pas la question de la forme de la Terre. Et donc, je pense qu'en pratique, on devrait être beaucoup plus faible... dans le nombre de platistes.
Alors, on va se mettre en mouvement. On va aller au tout début de l'expo. Oui. Ah. L'exposition, elle s'ouvre un peu sur une phrase coup de poing, une phrase écrite sur les murs blancs de la galerie Contretype. On lit
« Real eyes, real eyes, real lies ».
Les vrais yeux réalisent les vrais mensonges. Cette phrase, aujourd'hui, au XXIe siècle, elle est devenue obsolète.
Oui, complètement. On ne peut vraiment plus croire nos yeux.
Juste à côté, la première grande photographie encadrée de cette exposition, c'est le portrait d'un homme. Il a un certain âge, il a les cheveux frisés, une longue barbe blanche. Sa silhouette se détache sur une sorte de ciel, fin de journée, bleu nuit. Et alors le visage de cet homme, lui, nous demeure profondément mystérieux. Alors est-ce qu'il s'agit du portrait d'un platiste ou peut-être d'une photographie qui peut rappeler différentes figures historiques en lien avec cette quête du vrai, je pense à Platon, Pythagore, Aristote.
Peut-être qu'on pourrait rappeler effectivement une figure historique d'un vieux penseur, mais je trouve que ça y représente aussi l'archétype du complotiste marginalisé ou même d'un gourou. L'idée de garder ce visage dans l'obscurité, c'est qu'en fait on pouvait projeter nos propres pensées.
En regardant cette image, je le disais, ça me faisait penser à Platon, Pythagore, Aristote, et ça me faisait penser que voilà, la vérité existe-t-elle ? La vérité est-elle universelle ? La Terre est-elle ronde ou plate ? Le Soleil tourne-t-il autour de la Terre ? Ou la Terre tourne-t-elle autour du Soleil ? Toutes ces questions, elles ont été posées très tôt, dès l'Antiquité. On pense d'ailleurs souvent à tort qu'au Moyen-Âge, tout le monde pensait que la Terre était plate et que ce serait fin du Moyen-Âge, début de l'époque moderne, que Christophe Colomb, en partant chercher les Indes, aurait prouvé que la Terre était ronde. Et en fait, il n'en est rien, puisque au Moyen-Âge, tous les érudits de l'époque savaient que la Terre était ronde.
Même tous les gens normaux. Ce qui était contesté, en fait, c'était l'héliocentrisme.
Que Galilée, du coup, a prouvé qu'effectivement c'était bien la Terre qui tournait autour du Soleil. Mais déjà dans l'Antiquité, Platon, Pythagore, Aristote pensaient que la Terre était ronde, et c'est Aristote qui en aurait d'ailleurs apporté une des premières preuves.
En fait, c'est Érastosthène qui a prouvé avec des bâtons, en mesurant l'ombre à un endroit et en mesurant une ombre à un autre endroit en même temps.
C'est génial, en fait, c'est vraiment l'occasion de revoir les bases, c'est ça ? Toute cette histoire de la connaissance de cette Terre plate, pourquoi c'était important de ne pas nous la donner de façon plus concrète en parallèle de cette image, de garder le mystère là-dessus ?
Je ne suis pas professeur de sciences, je ne pense pas que ça soit mon rôle. Donc je pars du postulat platiste, mais pour vraiment parler de la construction de l'image. Le projet est vraiment basé là-dessus.
Dans cette exposition, on ne retrouvera aucun portrait de platiste. L'idée, ce n'est pas de se moquer de ces personnes.
Ni du jet, pas du tout.
Alors, qu'est-ce qui t'a intéressé dans ces théories, dans ces expérimentations des platistes, en ce qu'elles interrogent notre rapport à l'image, toi qui es photographe ?
Ce qui est très intéressant avec les platistes, c'est que, comme tu l'as dit avec Samuel Burley-Robotham, c'est qu'ils doivent faire des expériences qui soient assez directes, assez sans intermédiaire, directement compréhensibles. Et de ce fait, ils documentent leurs propres expériences pour deux raisons. La première, c'est que vu qu'ils se basent sur l'empirisme, ils font beaucoup de photos et de vidéos de toutes leurs expériences, de leurs observations, etc. La deuxième raison, c'est pour diffuser ce savoir. Donc fatalement, une image vaut mille mots. Après, ces images servent de canal de diffusion pour les réseaux sociaux, etc. Et fatalement, de preuves. Donc ça, c'est leur premier rapport à l'image. Le deuxième rapport à l'image, c'est que toutes les images qui viennent d'ailleurs, qui viennent par exemple de la NASA ou d'une quelconque autorité, celles-là sont obligatoirement fausses. Ouais. Et donc c'est cette dualité qui m'a vraiment intéressé chez les platistes.
Alors on avance dans l'expo, on trouve ici une installation, deux œuvres qui se répondent, tu nous les décris ?
Oui, la première qui est la plus imposante je pense, c'est un écran géant de 3 mètres sur 1,50 mètre de large et qui montre un océan calme avec une légère houle. Cet écran a des dalles LED manquantes, donc fait écho directement à la construction de l'image. Je disais que les platistes faisaient énormément d'observations. Celles qu'ils font le plus, c'est l'observation de la mer.
Quand tu regardes cette image très belle, très contemplative, tu vois surtout en plein milieu de cet écran une ligne d'horizon absolument plate. Et donc j'imagine que les platistes se disent si la Terre était ronde, on le verrait en regardant la ligne d'horizon de la mer, quoi.
Et ils jouent même sur la sémantique en disant le niveau de la mer et pas la courbe de la mer.
Voilà.
C'est leur postulat. Et en plus de ça, ils analysent aussi comment les objets disparaissent à l'horizon. Donc comment les bateaux s'éloignent, En théorie, il devrait disparaître par le bas à cause de la courbe de la Terre, mais qu'en zoomant le plus possible avec des appareils, des télescopes, blablabla, à chaque fois on arrive à revoir le bateau qui disparaît au loin, etc. Et donc eux, on est plutôt régis par les lois de la perspective. Donc ils font des milliers vraiment de photos et de vidéos des horizons de mer. Et pourquoi je l'ai mis sur un écran géant, c'est parce qu'en fait, un de leurs canaux de diffusion, c'est les écrans géants publicitaires. Oui, Martel, des messages, Platis, oui, We Search Flat Earth, ils essayent de gagner une communauté en fait. Et un jour, pendant mes recherches, je suis tombé sur un panneau publicitaire où il y a un horizon de mer et où on dit niveau de mer et pas courbe de la mer, enfin en anglais, donc sea level. Et j'ai voulu refaire ce panneau publicitaire dans l'espace d'exposition, mais ici d'une manière un petit peu plus individualisée. Donc il est presque à taille humaine et on se plonge dans l'horizon nous-mêmes.
Oui, alors ce qui est intéressant, comme tu le soulignais, c'est que ce panneau publicitaire, il nous est présenté avec des carrés LED manquants. Et d'ailleurs, si on se rapproche de cette image, de cet écran, petit à petit, on remarque de plus en plus les LED et une espèce de quadrillage en toutes ces petites lampes LED. Et donc, en fait, plus on s'approche de l'image, plus notre cerveau voit une grille plus qu'une image de mer.
Oui, tout à fait. On voit que la composition de cet écran.
Et ça pose du coup une question intéressante, c'est à partir de où une image commence-t-elle à documenter, fabriquer plutôt le réel ? Est-ce que c'est dans l'image elle-même ou est-ce que c'est aussi dans notre cerveau ?
Voilà.
Et alors ici, cette installation de bouteilles, tu nous l'as décrit d'abord.
Oui, c'est une œuvre qui s'appelle « Water always finds its level », donc l'eau se met toujours à niveau. C'est une œuvre qui se compose d'éléments scientifiques, donc de pinces faites pour tenir des airlines meilleures au-dessus d'un chalumeau, d'un bec benzène. J'utilise des codes scientifiques et ces pinces tiennent des bouteilles remplies à 2/3 d'eau. Et ces bouteilles forment un cercle. Et donc du coup, toutes les bouteilles ont des inclinaisons différentes, mais l'eau à l'intérieur est toujours à niveau. Donc, comme la Terre est composée à 70% d'eau, si l'eau se met à niveau à notre taille, ben, ça veut dire que la Terre est obligatoirement plate. Donc, pour eux, l'échelle n'est pas importante. Donc, si ça se passe d'une façon en petit, ça se passe de la même façon en géant.
Salle suivante. Ici, combien de photographies ? 4, la plus grande, on va la décrire. C'est une photographie qui nous parle de l'effet des trois soleils. Donc qu'est-ce que je vois ? Un soleil qui est en train de se coucher dans un horizon lointain, plat. Je devine en arrière-plan une sorte de montagne assez plate. Et puis, de part et d'autre de ce soleil couchant, deux répliques lumineuses du soleil. C'est une image, en la regardant, on pourrait presque avoir l'impression d'être face à un effet de science-fiction. Et pourtant, c'est une image qui documente, pour le coup, vraiment le réel.
Elle documente vraiment le réel, mais elle est fausse. C'est un phénomène météorologique qui se passe dans les environnements froids. Donc c'est selon l'angle des rayons du soleil, en fait, qui se réfléchissent dans des cristaux de glace qui sont dans l'atmosphère. Et qui recrée cette forme de coupole et de duplication du soleil.
Oui, parce que du coup, il y a vraiment comme une espèce d'arc lumineux qui se fait autour du soleil, comme s'il y avait une espèce de cloche au-dessus de ce soleil, enfin dans le ciel, quoi. Que le ciel était une sorte de cloche sur lequel notre soleil se reflétait.
Oui, c'est ça, on est sous une sorte de cloche. Et c'est un phénomène qui s'appelle la parélie. C'est un phénomène que j'ai cherché pendant longtemps.
Parce que c'est une photo que tu as prise toi, ce n'est pas quelque chose que tu as tiré d'Internet.
Non, mais c'est une intelligence artificielle qui l'a refaite.
Ah d'accord.
Voilà. Elle est complètement fausse, de A à Z.
Ah ouais. Mais on pourrait parvenir à photographier ce genre de...
Oui, tout à fait. Oui, oui, il y a plein de photos qui existent de parélie. C'est un phénomène qui est documenté, objectivé et observable sans aucun problème. C'est juste que moi, j'ai jamais pu en voir un. Oui. Je suis pourtant parti au pôle Nord exprès pour le voir, mais j'ai vu le soleil à l'eau, ce qui est pas si mal.
Et c'est quoi ?
Quand le soleil est plus haut dans le ciel, il y a une sorte d'arc-en-ciel et d'halo qui fait un cercle autour du soleil. Ça, je l'ai vu en vrai.
Par contre, tu as décidé de nous parler de ce phénomène de Parelli parce qu'il prend complètement sens dans la pensée platiste. C'est-à-dire que les platistes pensent que cette Terre plate se trouve sous une forme de cloche, sous une forme de dôme, c'est ça, hein ?
Oui, oui, tout à fait. Et le Sun Halo aussi. Mais j'ai refait celui qu'on voit dans l'exposition parce que j'avais répliqué une expérience que les platistes font où ils mettent une source lumineuse en dessous d'une coupole et qui reforme parfaitement... ces rayons du soleil comme ça qui se réfléchissent à l'intérieur d'une coupole.
Voilà, ça c'est la petite photographie qui se trouve à gauche de cette grande image de trois soleils. C'est toi qui tiens un briquet dans une sorte de saladier renversé et effectivement on voit ces effets de lumière qui se propagent. Alors dans la pensée platiste, l'idée c'est que la lune et le soleil sont pas du tout aussi grands qu'on nous les vend dans les discours officiels. Ils seraient situés à quelques 3000 km d'altitude de nous.
J'étais en train de chercher les chiffres, mais je les ai oubliés. Mais c'est, effectivement, c'est pas très loin. C'est une centaine de kilomètres ou quelque chose comme ça de nous dans le ciel.
Et que ce n'est évidemment pas la Terre, dans cette logique-là, qui tourne autour du Soleil, mais bien le Soleil qui tourne autour de la Terre.
Au-dessus de la Terre, même.
D'ailleurs, un peu plus tard dans cette exposition, il y a une autre installation qui s'appelle Water Above Us, que tu as réalisée et qui permet d'aller un peu plus loin dans cette croyance platiste.
Oui, tout à fait. Beaucoup de platistes font partie de l'Église évangélique aux États-Unis, donc ont une vision, on va dire, fidèle au texte biblique donc de l'Ancien Testament. Il y a le texte de la Genèse qui explique comment est la Terre, donc qui est un plateau sur des piliers. Au-dessus, il y a le firmament, et dans ce firmament, il y a les eaux du déluge.
Donc, ce qui expliquerait d'ailleurs le scintillement des étoiles, c'est-à-dire que le ciel, c'est quelque chose d'un peu près plutôt figé et solide, et qu'au-delà de ce firmament, il y a de l'eau, et que c'est les vibrations de cette eau qui crée les variations lumineuses, par exemple, des étoiles.
Oui, tout à fait.
Envisager un monde fermé, lisible, limité, bah, c'est plus rassurant que d'imaginer un monde qui serait le fruit d'un extraordinaire hasard.
Oui, peut-être.
Let's look at Genesis 1 and 6, all right? The Bible says, and God said, let there be a what? A firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. And God made the firmament and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And it was so. And God called the firmament heaven. And the evening and the morning was the second day. The firmament is a solid structure that God put over the earth. You ever saw a snow globe? That's what it looks like. That's the firmament.
On va passer dans la partie inférieure de la galerie contre-type, donc on va devoir emprunter des escaliers. À côté de l'escalier, trois images émises comme ça, bout à bout, l'une de l'autre. Elles constituent un mur de glace, un autre grand mythe de la pensée platiste.
Oui, dans la pensée platiste, la Terre est entourée d'un énorme mur de glace qui retient les eaux des océans et qui forme la limite de la Terre. Majoritairement, dans la pensée platiste, la forme de la Terre, c'est le drapeau des Nations Unies. Le pôle Nord est le centre, les continents sont autour et l'Antarctique est cette ceinture qui ferme le cercle.
Voilà, donc pas de risque de tomber non plus du coup de la planète.
Ah, avec... Non. Bah non.
Bon, allez, on continue, on descend les escaliers. C'est parti. Ça y est, ici, c'est la salle la plus obscure de Contre-type, c'est la salle noire. Ici, tu nous présentes les mathématiques de la pensée platiste. Alors, je vois qu'il y a des fonctions, qu'il y a toute une série de choses qui ont l'air très sérieuses. C'est l'effet escompté que de créer un sentiment, quand on entre dans cette salle, de science, de savoir fondé sur des vrais calculs.
Oui, c'est aussi le paradoxe des platistes, donc c'est qu'ils ont besoin de la science pour légitimer leur théorie. cette formule est là pour mettre ça en avant. Mm-hmm. Donc une des pensées platistes, c'est qu'il y a d'autres mondes. Donc nous, on est le monde Terre, hein, on va dire, sous notre cloche, etc. Mais au-delà de l'Antarctique, au-delà de cet infini de glace, il pourrait y avoir d'autres mondes qui sont eux aussi sous des cloches, etc. Et ce qui fait écho à certaines anciennes mythologies. Et donc, voilà, là, c'est un platiste qui a imaginé une formule mathématique pour essayer de prouver qu'un plateau infini pourrait être possible mathématiquement. Une sorte de terre infinie. Imaginez une grande page blanche,
ouais,
qui serait de la glace. Au milieu de cette page blanche, il y aurait la Terre, le drapeau des Nations Unies. Et à côté, il pourrait y avoir d'autres mondes qui sont aussi sous des cloches.
Du coup, je comprends mieux cette image qu'on voit à gauche, cette espèce de photographie d'une mer et d'un ciel plein de nuages blancs, où la mer est elle-même toute blanche, et donc on a l'impression que la mer et le ciel se fondent l'un dans l'autre.
Mais c'est pas une mer, c'est un désert de sel. C'est pour ça que c'est tout blanc, c'est le salar, le salar de Uyuni, exactement.
Qui est en Bolivie.
Qui est en Bolivie, qui est l'endroit le plus grand et le plus plat sur Terre.
Oui.
Que oui, j'ai inclus dans l'exposition pour expliciter, parce que en fait, ça c'est, il y a plusieurs théories. Donc il y a aussi des platistes qui pensent qu'on se téléporte une fois qu'on arrive à une extrémité de la Terre, et donc comme Pac-Man par exemple.
D'accord.
Donc il y a pas une pensée platiste.
Cette exposition, elle est très en lien aussi avec cette idée de post-vérité dont on parle beaucoup aujourd'hui. C'est-à-dire que oui, quand on regarde des images aujourd'hui, à quel point est-ce qu'on ne les regarde pas peut-être d'abord avec nos émotions, nos croyances, plutôt qu'avec une certaine forme de froideur et d'objectivité. D'ailleurs, cette objectivité est-elle réellement possible ?
Dans la prise de photographie ou dans l'analyse ?
Bonne question, qu'est-ce que tu dirais ?
Ni l'un ni l'autre. D'ailleurs, ça a aussi été théorisé, hein, qu'on était plutôt dans une émocratie, qu'on est vraiment régi par les émotions, que les médias jouent beaucoup avec cela.
C'est tout le principe de la publicité, d'ailleurs.
Oui, en fait, on essaye de capter l'attention. L'attention, ça passe par les émotions, etc. Donc,
Alors, ici, la dernière installation de cette exposition, première chose que moi je remarque, c'est une projection au plafond dans un disque lumineux plat qui rappelle, on l'aura compris, la croyance en une terre plate. Et dans ce disque, on peut lire « Do your own research », donc « Faites vos propres recherches ». Et juste en dessous de cette projection, eh bien, il y a une lampe de poche que tu as fixée au sol et que tu as pointée dans la direction d'une photographie, elle aussi posée au sol. Alors, il s'agit d'un miroir posé dans une sorte de grotte, dans une forme de nuit, de nature obscure, dans laquelle à la fois ce miroir nous est rendu visible, mais en même temps, il s'y fond aussi, un peu malgré tout. Et dans ce miroir, on observe une source lumineuse et on ne sait pas, est-ce la lampe de poche qui s'y reflète, est-ce une étoile qui s'y reflète ? L'interprétation reste ouverte.
Effectivement, il y a un petit peu un jeu. Je pense qu'il y a plusieurs degrés de lecture à cette œuvre et je laisse le public prendre ce qu'il y a à prendre en fait, et analyser l'œuvre comme il le souhaite.
Pour se quitter, Philippe, j'avais envie de te lire ces mots de Hannah Arendt qui, pour moi, résonnent quand même d'une certaine façon avec cette exposition. En ce que ces mots, en fait, interrogent aussi notre rapport à ce qu'est le vrai, à ce qu'est le faux. Alors, Hannah Arendt, elle disait en 1974, dans un entretien avec Roger Herrera, en parlant du totalitarisme, ceci. Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Au fond,
Est-ce que la persistance aujourd'hui de la pensée platiste, c'est pas le symptôme un peu indirect et peut-être même une forme d'acte de résistance très maladroit qui s'inscrit dans un monde où on observe la recrudescence de régimes autoritaires, de pensées réfractaires au pluralisme, y compris en Occident, je veux dire, hein, des régimes qui aussi n'hésitent pas à manipuler l'information pour nous embobiner dans leur discours. Est-ce que finalement, la pensée platiste, c'est pas une volonté très maladroite pour certaines personnes de reprendre la main sur le sens ?
Ouais, bah, c'est complètement dingue parce que cette citation d'Anna Arendt, j'avais imaginé déjà la mettre à la fin du livre.
Qui va comparaître.
Donc franchement, tu as tapé juste. Et oui, ce projet est vraiment pour parler de comment on peut manipuler des faits, comment on peut asservir en fait des opinions.
Avec ce truc un peu paradoxal aussi que la pensée platiste, manichéenne, elle mime en fait les logiques autoritaires qu'elle croit combattre, quoi. C'est ça aussi qui est intéressant avec cette pensée-là.
Oui, complètement. Complètement. Je ne sais pas dire mieux.
Alors, il y a un livre qui va comparaître aussi à la fin de cette exposition. Est-ce que cette exposition en est une forme de résumé ?
Non, pas du tout. C'est une toute petite partie du livre qui est, je pense, la meilleure forme pour comprendre le projet.
Huh? The sky is strong. What is it like? It's as a molten looking glass. It's a covering. We would call it a dome.
Earth, not a globe.
Right? But there's some transparency to it.
Une exposition et un livre de Philippe Braquenier à découvrir à Contre-type à Bruxelles jusqu'au 22 mars 2026. Avec la voix de Philippe Braquenier, réalisation Fanny Lacrosse.
Voilà, habitat partagé, Ernest, bureau, hop. Ah, c'est vous Lionel ?
C'est monsieur Haché, moi, l'architecte.
Enchanté.
Joudou.
Florent.
Voilà.
Quelle grande porte en bois déjà. Je vous laisse passer avec votre vélo ?
Oui, je rentre.
Je ferme derrière. Bonjour à tous, Fanny.
Bonjour Lionel. Je termine une visite avec deux mamans qui sont intéressées par le projet.
Je vous vois avec un tout petit bébé dans les mains. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'en savoir un peu plus sur ce type de logement ?
Ben, c'est une séparation, donc c'est pas forcément quelque chose de joyeux. Et c'est la peur de se retrouver toute seule aussi en tant que maman, d'être isolée parce que bah, à 20h ils font dodo et puis on est toute seule. Ici c'est pouvoir avoir aussi des personnes et ne pas être seule et briser la solitude. Voilà.
Aujourd'hui je suis à Namur, en plein centre-ville à deux pas de la gare. Je pousse une porte et derrière, ce n'est pas juste un bâtiment que je découvre, mais une autre manière de faire famille. Bienvenue à l'habitat Godefroy, là où est né le projet Ernest Living. Une ancienne maison de maître de plus de 1000 m² transformée en habitat partagé. Ici, espaces collectifs et logements privatifs ont été pensés pour accueillir jusqu'à 12 familles monoparentales. Des parents solos, avec 1, 2, parfois 4 enfants, qui choisissent de vivre autrement, ensemble, mais sans renoncer à leur intimité. Le projet est tout récent. Il a ouvert ses portes en novembre dernier. 6 familles y ont déjà pris leur quartier. Pour comprendre comment ce lieu tente de réinventer le quotidien et les liens familiaux, je retrouve Lionel Waters, propriétaire et porteur du projet Ernest, ainsi que Florent Hachez, architecte et cofondateur du bureau Pluricité, embarqué par Lionel dans cette aventure humaine et architecturale hors norme. Alors Lionel, c'est vous qui avez eu l'idée de lancer ce type de projet, c'était en 2020. Comment cette idée, elle s'est mise sur votre parcours personnel et professionnel ?
Moi, je suis ingénieur architecte de formation et déjà pendant mes études, je me suis intéressé aux alternatives d'habitat. Tiens, comment est-ce qu'un habitat, au-delà d'offrir un toit confortable, durable, sécurisé, comment est-ce qu'on peut amener quelque chose en plus, notamment par la dynamique de groupe ? Donc je me suis intéressé aux questions d'habitat groupé, donc j'habite moi-même dans un habitat groupé à Bruxelles. J'ai travaillé dans un autre projet où on développait des habitats groupés locatifs, donc on mettait en location des appartements, mais où il y avait cette dynamique collective, des espaces communs en plus de l'appartement. Et puis en 2020, je me suis intéressé aux familles monoparentales, c'est un public qui peut d'autant plus bénéficier de tout ce que peut apporter de dynamique collective, d'entraide, de solidarité, de lien social d'un tel projet, habitat groupé ou ici habitat partagé. Alors, je ne sais pas s'il y a une définition dans le Larousse. Ma définition, c'est que l'habitat groupé, chacun a son unité de logement,
oui,
avec sa cuisine, son salon, salle à manger, chambre, salle de bain. On a le jardin qui est commun, on a une buanderie qui est commune et aussi une dynamique collective, évidemment, de gestion et de projets qu'on fait ensemble. Ici, habitat partagé, on se rapproche plus de la colocation. Pourquoi ? Parce que la cuisine est commune. Mais on n'appelle pas ça une colocation ici, on appelle ça un habitat partagé. Premièrement, parce qu'on dit aux gens, venez ici parce que vous voulez vivre cette dynamique d'entraide, de solidarité, des échanges. Et aussi parce qu'on le verra, les espaces privatifs, on s'adresse ici à des familles. Donc ce n'est pas une colocation classique avec une chambre et une salle de bain partagée. Non, il fallait que les espaces privatifs, qui sont a priori la fonction de chambre, soient suffisamment grandes que aussi chaque famille puisse avoir son espace de salon, chaque famille puisse avoir son espace à soi.
Florent Hachet, Lionel Waters, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés tous les deux ? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de travailler ensemble ?
Donc moi, je connais Lionel parce qu'on a fait en fait les mêmes études, mais à quelques années de différence. Donc je suis aussi ingénieur architecte et on a fondé avec une amie Pluricité il y a maintenant 15-16 ans. Pluricité, ça veut dire, on sait que l'architecture, elle est plurielle, qu'elle s'appuie aussi sur la ville, elle s'appuie sur le bâti existant. Et donc quand on a fondé le bureau, c'était cette réflexion-là, comment est-ce qu'on peut parfois dans le bâti existant, développer des projets qui sont environnementaux, intéressants, des projets qui sont sociétaux. Et c'est là qu'en rencontrant Lionel et en discutant avec lui des autres façons d'habiter, l'habitat partagé, l'habitat groupé, on a assez vite matché de voir, tiens, voilà, comment est-ce que dans un bâtiment existant, on peut y mettre une autre dynamique de groupe et comment est-ce que l'architecture peut permettre à cette dynamique de groupe de se mettre en place.
C'est peut-être, je pense, intéressant de rappeler les défis auxquels peut-être les familles monoparentales se confrontent sur le marché du logement.
C'est effectivement compliqué pour les familles monoparentales. Premièrement, pour une précarité économique, c'est un seul revenu. 85% des familles monoparentales, ce sont des mamans, donc on connaît la disparité salariale. Mais en plus, ce n'est pas un revenu plein, parce que gérer ses enfants seuls et avoir un boulot à plein temps, c'est quasi impossible. Donc il y a une réalité, c'est que voilà, il y a une certaine précarité économique. C'est un des objectifs de ce projet d'être moins cher. Ce n'est pas l'objectif premier. L'objectif premier reste cette dynamique de groupe, ces échanges. D'ailleurs, on a des loyers qui ne sont pas des loyers projets de logements sociaux. C'est des loyers qui sont quand même assez élevés.
C'est entre 600 et 1000 euros en fonction de la superficie de l'unité familiale occupée, hors charge.
Oui, c'est ça. Parce qu'on verra, les unités privatives sont plus ou moins grandes en fonction. Mais donc ça, c'est la principale difficulté des familles monoparentales. Mais il y a deux autres difficultés qui existent. Je ne suis pas sociologue, mais voilà, que j'ai pu lire dans des études. C'est la difficulté d'organisation, la difficulté de, voilà, de pouvoir travailler et de gérer ses enfants. Mais c'est aussi, quand on travaille, aller chercher les enfants à l'école, les amener à l'école, faire des courses, tout ce genre de choses de tous les jours. Ici, ce n'est pas une communauté, donc chacun est autonome dans sa gestion. A priori, chacun cuisine son repas pour ses enfants et lui-même, mais il y a possibilité de partager des repas aussi.
Oui,
ça, c'est le groupe qui va décider, ou chacun qui va décider. Peut-être qu'il y a deux familles qui auront les mêmes horaires, qui auront les mêmes goûts culinaires et qui s'entendront bien, qui cuisineront souvent ensemble, peut-être plus. Voilà, ça, c'est la vie du groupe qui va évoluer avec le temps.
C'est parfois tout simplement aussi difficile de trouver des appartements à louer quand on a des enfants. J'avais une amie qui me racontait que parfois la simple évocation de dire « bien, j'ai trois enfants », des propriétaires leur raccrochent le téléphone au nez. C'est-à-dire que les familles peuvent aussi être effrayantes parfois pour des propriétaires qui ont peur qu'ensuite ça crée des problèmes de bruit avec le voisinage, ce genre de choses. J'imagine que ça aussi c'est une autre réalité.
Oui, c'est vrai qu'il y a la réalité économique, mais il y a la réalité de la discrimination. On a ici plusieurs mamans qui viennent de centres faits d'asile.
Ah oui.
Un exemple, il y a une maman d'origine africaine qui a 4 enfants, qui est au revenu d'intégration sociale. Ben voilà, trouver un logement pour elle, c'est très 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 difficile. Voilà. Après, on a dit à la personne qu'il faut venir dans le projet, surtout pour cet aspect de collectif. Et pas uniquement parce que c'est la seule manière de trouver un logement. Et d'ailleurs, il y a un accompagnement, tant la constitution du groupe que le groupe est accompagné par une association qui s'appelle Habitat et Participation, qui est spécialisée dans tout ce qui est collectif d'habitat. Mmh. Et donc, il va accompagner la constitution du groupe. Donc, il y a un entretien individuel avec chaque personne qui est intéressée à venir dans le projet, après une première visite, pour bien expliquer ce que c'est qu'un habitat partagé. Enfin, la définition de l'habitat partagé d'Ernest, mais aussi vérifier que chaque personne est apte à rentrer dans le projet comme ça, que ce soit une question de langue, que ce soit une question de motivation à rentrer dans un projet comme ça. Et puis, évidemment, une fois que la personne est dans le groupe est accompagné pour aider à définir une charte de vie, à définir des règles, de comment, voilà, qui sort les poubelles, comment est-ce qu'on entretient, quelles sont les règles par rapport à d'éventuels bruits des enfants, l'utilisation des espaces. C'est le groupe qui va définir ces règles, accompagné, aidé par cette personne d'habitat et participation. Mais aussi, ils vont être formés à une gouvernance participative. Comment est-ce qu'on prend une décision ensemble, à 12, pour que ça se passe le mieux? Voilà, il y a des tensions, ça va arriver qu'il y aura des tensions. Ben voilà, quels outils d'intelligence collective pour résoudre des problèmes de conflits interpersonnels ou de groupe de manière positive.
Alors ici, est-ce que vous feriez l'exercice d'essayer de décrire l'atmosphère de ce lieu, son histoire? On est plutôt sur un bâtiment néoclassique, maison de maître, c'est ça?
C'est une maison de maître avec des plafonds très hauts et des plafonds moulurés. C'était une ancienne étude de notaire dans laquelle le notaire avait ses bureaux au rez-de-chaussée. Et aux étages, c'était les salons, les chambres, les salons un peu d'apparat, typiques de ces maisons de maître des années...
Fin 19e.
Et on a essayé de garder au niveau des espaces communs, c'est aux grandes hauteurs de plafond, aménagé ici, on est dans une énorme cage d'escalier, un peu cage d'escalier d'apparat. On s'est dit, mais on a un palier qui fait quasiment 20 mètres carrés là au-dessus. On va le transformer, ce palier, en petit salon qui sera ouvert vers le jardin. Ici, dans le bas de l'escalier, mais c'est une partie de la salle à manger. Et dans la partie qui était utilisée avant par les bureaux du notaire, on a aménagé à ce moment-là la partie cuisine partagée.
On va la voir.
On peut
aller
la voir.
Allez, c'est parti, on y va. Cuisine tout à fait moderne. Il y a combien de plaques de cuisson ici?
4 plaques de cuisson, on a 4 frigos qui sont partagés. Chaque famille a également un espace de rangement pour ses denrées et ses ustensiles personnels. Et alors, on a toute une série de tables qui sont un peu modulables, qui permettent à chaque famille de s'installer soit dans son coin, soit de faire une grande table avec tout le monde si un jour on veut faire un repas commun partagé. On a des lave-vaisselle qui sont là aussi pour tout le monde. Et alors, on a aussi des fours partagés pour l'ensemble des occupants.
Bonjour, vous habitez ici?
Oui.
Comment ça se passe ici? Est-ce que tout le monde cuisine ensemble? Comment vous faites?
En fait, c'est pareil, chacun fait son petit repas comme ça et chacun déjeune et mange et dîne où ils veulent bien, en collectif ou pas, ça dépend du moment, de la journée. Voilà.
Est-ce que parfois, ça peut être pesant de devoir toujours partager un espace de cuisine comme ça avec d'autres familles ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt quelque chose de ressourçant dans le quotidien?
Pour moi, en tout cas, ça va. Enfin, dans le quotidien, on s'entend bien toutes. Donc,
ouais.
Non, tout va bien.
Le 14 mars, Façon de voir poursuit la visite de l'habitat partagé Godefroy à Namur, à destination de 12 familles monoparentales. Porté par Ernest Living, ce projet tout récent continuera de se dévoiler à travers les voix de Lionel Waters, Florent Haché et les habitantes de cet habitat, qui nous feront découvrir les enjeux architecturaux des espaces collectifs et des unités familiales privées et leur mise à l'épreuve d'un quotidien qui s'y construit aujourd'hui pas à pas. façon de voir est soutenue par la cellule architecture et la direction des arts plastiques contemporains de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Réalisation, Fanny Lacrosse.
Par Oui Dire, chaque dimanche, de 20h à 22h sur la première, et quand vous voulez sur OVIO.